de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal aujourd'hui, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, la voix de l'Indonésie, avec les nouvelles aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain invitera les pays du G20 à faire pression sur la Russie lors de la réunion des ministères des Affaires étrangères du G20. Le premier ministre britannique nomme Nadim Zahawi au poste du ministère des Finances, dit This News Complete. Cette semaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken invitera les pays du G20 à faire pression sur la Russie pour soutenir les efforts des Nations Unies à ouvrir les voies maritimes bloquées à cause du conflit ukrainien. Blinken aura également répété des avertissements contre la Chine pour ne pas aider les efforts de la Russie à faire la guerre. Le secrétaire d'État américain est parti mercredi en Asie pour assister à la réunion du ministère des Affaires étrangères de G20 à Bali qui aura lieu vendredi. Lors de sa visite, il rencontrera le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Cependant, aucune rencontre n'est pas prévue entre Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Le premier ministre britannique Boris Johnson a nommé mardi Nadim Zahawi au poste de ministre des Finances pour remplacer Rishi Sunak, qui a démissionné pour protester contre la direction de Johnson. Zahawi va faire face bientôt à la pression pour qu'il fasse plus pour aider les personnes dans les besoins. Il fera face également aux pressions pour réduire les impôts qui se dirigent vers le niveau le plus élevé. Zahawi était auparavant ministre de l'Éducation. Ce poste est maintenant occupé par Michel Donnellan, qui était auparavant secrétaire d'État à l'Éducation. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aissata Tall Sall, a remercié l'Indonésie d'avoir été le premier président du G20 à inviter la participation des membres de l'Union africaine. La ministre des Affaires étrangères, Aissata, a prononcé la déclaration à qualité du Sénégal en tant que président de l'Union africaine lors de sa rencontre avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Nusa Dua, Bali, mercredi. Tous les deux se sont rencontrés avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de G20 à Bali le 7 et 8 juillet 2022. Pendant ce temps, le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse qu'en ce qui concerne la coopération bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont fait signer un protocole d'accord de la consultation diplomatique qui deviendra un forum de discussion pour renforcer la coopération bilatérale. Les deux ministres des Affaires étrangers ont également convenu d'un régime sans visa pour les titulaires des passeports diplomatiques et de sa service à principe. L'Indonésie a soumis une demande d'exclusion de la classification C du système de visa du Sénégal, considérant que la politique est considérée comme le prêt approprié pour les conditions d'Indonésie. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal a convenu que la politique sénégalaise en matière de visa envers l'Indonésie n'était pas conforme à la situation indonésienne et se coordonnera donc immédiatement avec les autorités sénégalaises afin que la politique puisse être révisée. Le ministère de l'Investissement, en tant que chef de conseil de coordination des investissements BKPM, Bahlil Hadali, a invité les pays membres du G20 à jouer un rôle dans le soutien de la reprise économique mondiale après la pandémie de COVID-19 lors de l'ouverture de la deuxième réunion du groupe de travail du G20 sur le commerce, l'investissement et l'industrie, TEVG, à Solo dans le centre de Java mercredi. Bahlil Hadali a encouragé le G20 à devenir un élan de réflexion constructive et à s'élever ensemble face à l'incertitude mondiale. Bahlil Hadali a souligné qu'il s'agit d'un élan de collaboration entre les pays membres du G20 pour contribuer de manière significative à la reprise économique mondiale au milieu de l'incertitude mondiale qui a été affectée par la pandémie de COVID-19 qui s'est fait sentir ces dernières années. Il a souligné que presque tous les pays ont actuellement le même problème, à savoir comment contrôler la COVID-19 et comment mener à bien le processus de relance économique post-pandémique. Selon lui, la reprise économique mondiale actuelle est dans une situation incertaine. La gouvernance économique mondiale d'aujourd'hui est également confrontée à divers défis. La réunion du groupe de travail sur le commerce, l'investissement et l'industrie du G20 en Solo, que s'était tenu du 5 au 7 juillet 2022, a poussé à la réalisation des trois principaux programmes proclamés par le président Joko Widodo. Le directeur général des négociations commerciales internationales au ministère du Commerce, Jadmiko Brice Wicaksono, lors de la réunion à Solo dans le centre de Java, a déclaré mercredi que l'un d'eux est de savoir comment renforcer l'infrastructure sanitaire mondiale. Les deux autres agendas sont la promotion de la numérisation et l'assurance de l'énergie et de la transition. Par le biais de la réunion, les pays membres du G20 cherchent également à garantir que le processus de l'Organisation mondiale du commerce, OMS, puisse se dérouler conformément aux aspirations des membres de l'OMC, qu'ils soient pays en développement ou non. Adjoint aux affaires économiques au ministère de la Planification du Développement National, BAPNAS, Amalia Adiningar a déclaré qu'elle avait préparé 6 grands stratégies pour transformer l'économie indonésienne. Amalia Adiningar, lors du séminaire d'études au milieu d'année par l'INDEF à Jakarta, a déclaré mercredi que plus tard, cette transformation économique orientera à fournir une base économique plus résiliente et adaptive. Les six stratégies sont l'augmentation de la compétitivité des ressources humaines, l'augmentation de la productivité dans chaque secteur économique, la mise en œuvre d'une économie verte, la transformation numérique, l'intégration de l'économie nationale et le déplacement de la capitale nationale. Concernant l'augmentation de la compétitivité des ressources humaines, elle a déclaré qu'elle renforcerait le système de santé, l'éducation, la protection sociale ainsi que la recherche et l'innovation. Les six stratégies utilisées comme référence pour construire une économie nationale plus inclusive et durable devraient accroître la productivité afin de réaliser la vision 2045 de l'Indonésie. C'est le tour de tisse, c'était la nouvelle aujourd'hui. À demain.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le coin diplomatique et on porte le titre. La promotion du café indonésien est accueillie avec enthousiasme par les citoyens de Brunei Darussalam. Les citoyens et les amateurs de café au Brunei Darussalam ont accueilli avec enthousiasme l'activité de promotion du café indonésien menée par l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan. Dans sa déclaration reçue à Jakarta lundi 4 juillet, l'ambassade a indiqué que plus d'une centaine d'invités ont assisté avec enthousiasme à l'activité à Brunei qui a été organisée pour la première fois par l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan samedi 2 juillet. Avec le thème « Mon café, mon Indonésie », l'activité promotionnelle vise à présenter différents types de cafés spéciaux avec différents types de variétés de différentes régions d'Indonésie aux connaisseurs de café au Brunei. L'ambassadeur indonésien au Brunei Darussalam, Sujat Miko, a souligné qu'actuellement, la culture de la consommation de café au Brunei ne cesse pas de croître et de se développer, de sorte que le secteur du café est également de plus en plus présent. Par conséquent, on espère que cette activité pourra encourager la collaboration commerciale entre les passionnés du café de Brunei et les fournisseurs ou les torréfacteurs de l'Indonésie. L'activité de promotion du café indonésien a réuni des représentants du gouvernement local, des cercles diplomatiques, des importateurs commerciaux des produits indonésiens, des propriétaires de café au Brunei, des médias, influenceurs et des jeunes de Brunei. La série d'événements a commencé par un talk show animé par un expert en café brunéen qui est également un expert en café, instructeur barista M. Fadil Abu Bakar qui a parlé du goût supérieur du café indonésien. De plus, l'ambassadeur d'Indonésie à Bandar Seri Begawan a invité 6 cafés locaux à participer à la promotion du café indonésien lors de la séance de dégustation de café. Les types de café promo comprennent Arabica Gayo, Toba Ai Raja, Kamojang, Honey Anaerob, Ijen Yellow Katura, Bali Sudana, Toraja Kalosi, Malabar Cibercek, Fruit Bomba Puntang produit par certains cafés et torréfacteurs de café en Indonésie. Chaque invité semble enthousiaste à discuter et à goûter le café servi en fonction de ce qu'il aime. Serge Ritter, Télécom Diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 juillet 1937. L'incident du pont Marco Polo a déclenché la guerre de la Chine contre le Japon. L'incident du pont Marco Polo s'est produit le 7 juillet 1937. Une petite force japonaise manœuvrant près du pont Marco Polo avait l'intention d'entrer dans la petite ville de Wanping, contrôlée par la garnison chinoise à la recherche de leurs soldats. La garnison chinoise de la ville a refusé l'entrée japonaise, ainsi une fusillade s'en suivit. Dans cet incident, 96 soldats chinois et 660 soldats japonais ont été tués. L'affrontement a ensuite déclenché une guerre à grande échelle dans toute la Chine contre les forces d'occupation japonaises. Passons maintenant à l'événement du 7 juillet 1978, l'indépendance des îles Salomon. Les îles Salomon, situées dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont habitées depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. La majorité de la population de Salomon est issue de l'ethnie mélanésienne. Les Européens y ont mis les pieds pour la première fois en 1567. Le 7 juillet 1978, les îles Salomon ont obtenu leur indépendance de l'Angleterre. La reine britannique Elizabeth II étant la reine des îles Salomon, représentée par un gouverneur général. Le chef du gouvernement des îles Salomon est dirigé par un premier ministre. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 juillet 2005. Londres est secoué par des bombardements. La tragédie de l'attentat à la bombe de 2005 à Londres était une série d'attentats à la bombe qui ont eu lieu sur le réseau de transport public à Londres en Angleterre le matin du 7 juillet 2005, heure locale. Au moins 56 personnes ont été tuées. Quatre explosions se sont produites sur trois lignes de métro et en bus au centre-ville de Londres. On pense que les quatre explosions ont été perpétrées par des terroristes et se sont produites juste au moment où la conférence du G8 s'ouvrait en Écosse dans l'après-midi de la veille. Cet incident était la deuxième pire attaque terroriste subie par la Grande-Bretagne dans l'après-guerre mondiale. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie.
Seberang sana gundah gelisah seakan terlupa tawa candamu mengalihkan semua getaran ini terasa nyata apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Voilà, chers auditeurs, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « L'accord entre l'Indonésie et le Royaume-Uni sur le développement des transports à faible émission de carbone ». Le gouvernement indonésien et le gouvernement britannique se sont mis d'accord sur le transport à faible émission de carbone en Indonésie dans le cadre du programme Futurville, partenariat Royaume-Uni Indonésie bas carbone, qui s'est tenu à mardi, je veux dire qui s'est tenu mardi à Jakarta. Le directeur général des transports terrestres au ministère des Transports, Hendro Sugiatno, a déclaré que la coopération devait contribuer à un système de transport urbain en développement durable et respectueux de l'environnement en Indonésie. Il a déclaré précédemment que l'accord de mise en œuvre pour démarrer la coopération avait été conclu par le secrétaire général du ministère des Transports, Novi Rianto, et l'ambassadeur du Royaume-Uni en Indonésie et au Timor-Leste, Owen Jenkins. La signature faisait suite au protocole d'accord signé par le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, et la ministre d'État au ministère des Transports, Wendy Morton, MP, en juin 2022. Hendro a déclaré que l'effort d'amélioration de la qualité des transports était conforme aux efforts visant à accroître la croissance économique et à atténuer l'impact du changement climatique. Le gouvernement indonésien développe des transports urbains de masse sous forme de transports en commun rapide par autobus et le chemin de fer. À la même occasion, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Indonésie et au Timor-Oriental, Owen Jenkins, a expliqué que le gouvernement indonésien, intermédiaire du partenariat britannique pour la transition climatique accélérée, a accordé un soutien financier d'un montant de 9 millions de livres sterling, soit environ 162 milliards de rupiah. Le fonds était destiné au transport urbain respectueux de l'environnement dans certaines provinces d'Indonésie, à savoir le nord de Sumatra, Jakarta, l'ouest de Java, le centre de Java, l'est de Java et le sud de Sulawesi. L'ambassadeur Owen Jenkins a ajouté qu'à travers ce programme, les deux pays avaient l'intention de saisir les grandes opportunités telles que l'élaboration efficace de feuilles de route pour l'électrification des véhicules, l'intégration de solutions respectueuses du climat dans le plan de développement national et régional, et la planification de projets de transport à faible émission de carbone pour vous attirer des investissements. Les 5 projets du programme Futurville comprennent l'intégration du LRT, le développement axé sur le transport en commun et la valorisation foncière à Semarang. Deuxièmement, la transition vers un transport inclusif à faible émission de carbone à travers de diverses améliorations de la sécurité pour le groupe vulnérable. Troisièmement, un renforcement du transport urbain durable sur les côtés. Quatrièmement, une décarbonation inclusive des transports en Indonésie. Cinquièmement, une mobilité propre pour la zone métropolitaine de Jakarta. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Bon, d'accord, chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez, cette chanson? C'était belle? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Ce jour, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Ces jours, le 1er juillet dernier, la communauté de danse Jai du village de Watungene, le district de Kota Komba, la résidence de Manggarai Oriental, Nusa Tenggara Oriental, a interprété la danse Jai de la communauté Ngada. La danse a été exécutée au terrain de football de Wailenga. Les danseurs aux vêtements traditionnels typiques du peuple Ngada ont dansé devant la maison du siège social de la ville de Komba en direction du terrain de football de Wailenga. Cette danse est accompagnée du son des tambours et des gongs. La danse Jai est exécutée comme une expression de gratitude, de la joie de la part de la communauté. Cette danse Jai est généralement exécutée en masse par la communauté tribale Ngada. Plus, il y a des participants dans la danse, c'est mieux. Pour le peuple Ngada, la danse Jai a également une valeur de vie très importante, tant dans la vie sociale que communautaire. Cette danse montre comment l'esprit d'unité est toujours entrelacé. Les instruments de musique utilisés pour accompagner la danse Jai sont 5 gongs et 3 tambours. Les modèles sonores et le tempo qui sont produits à partir de ces instruments de musique sont statiques et monotones. La danse Jai est désignée comme langue des patrimoines culturels immatériels de l'Indonésie depuis 2021. Jai est le 30e patrimoine culturel immatériel de l'Est de Nusa Tenggara qui est désigné au niveau national. Ces auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Jatuh cinta lagi pada
Voilà, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons présenter le marché créatif de Bandung. Le département de l'industrie et du commerce de la ville de Bandung et le Conseil national de l'artisanat régional de la ville de Bandung ont de nouveau organisé l'activité Marché Créatif de Bandung 2022. Le chef du département du commerce et de l'industrie de la ville de Bandung, Eli Wasliah, a déclaré que le Marché Créatif de Bandung 2022 est une activité de routine pour le gouvernement de la ville de Bandung. Cette année est la troisième année qu'on organise cette activité. Le marché créatif de Bandung se tiendra du 1er juillet jusqu'au 14 août dans 6 centres commerciaux de Bandung, entre autres TSM, Festival CityLink, Ciwok, PVJ, King et 23 Pascal. Au ATSM, le marché créatif de Bandung 2022 se déroule du 1er au 10 juillet, le Festival CityLink du 8 au 17 juillet, Ciwok Day du 15 au 24 juillet, PBG du 22 au 31 juillet, King du 29 juillet jusqu'au 7 août et 23 Pascal du 5 au 14 août. Le chef du département de l'industrie et du commerce de la ville de Bandung, Eli Wasliah, espère que le marché créatif de la ville de Bandung pourra augmenter la production de produits de micro, petite et moyenne entreprise de cette ville afin de soutenir l'utilisation de produits nationaux ou fiers d'être fabriqués dans le pays et de soutenir la reprise économique à Bandung. Il a révélé qu'il y en avait environ 13 stands avec 30 PME dans chaque centre commercial. Pour les PME, entre autres, la vente de produits de mode, culinaire et artisanaux. Pour le nombre total de PME impliquées, il y a environ 200 petites et moyennes entreprises. Et selon Eli, les PME participant à l'activité sont le résultat d'une curation et des meilleurs PME peuvent participer à ces activités. Ils sont gratuits et n'importe que le produit. Le gouvernement de la ville de Bandung étend la participation des centres commerciaux à l'organisation du marché créatif de cette année avec un objectif de plus de transactions. En 2022, le chiffre d'affaires du marché créatif a atteint 1,4 milliard de roupies, tandis qu'en 2021, il a atteint 4,6 milliards de roupies. Le chef du bureau de commerce et de l'industrie de la ville de Bandung, Eli Wasliah, a déclaré que le gouvernement de la ville de Bandung vise à ce que le chiffre d'affaires des transactions leur développement atteint 6 milliards de roupies. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Apa yang terjadi semalam? Aku tak mampu untuk lupakan kamu. Membuat diri ini duadu di mabuk kepayang.
Malu, karena takut padamu. tumbuk sampingku. Pegang erat dan tak akan ku melepasmu. Hanya ada dalam hatiku. Kunci hatiku, pandang-pandangan kamu dengan diriku, lugu, lucu, lulu kepada
kau begitu lucu.
Bon, d'accord, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Alors, c'était belle la chanson? Vous aimez? Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson du groupe musical Humania. Chers auditeurs, l'industrie musicale indonésienne dans les années 1990 était autrefois animée par Humania, dont la musique était considérée comme une pionnière d'un genre de jazz différent en raison de son mélange de blues et de reggae avec le thème de l'humanité. Pas le genre habituel à l'époque des années 90, la formule proposée par Humania a réussi à attirer l'attention des auditeurs des musiques indonésiens. Humania, qui se compose d'Eki Puradireja, chanteur, et Heru Singhi, joueur de synthétiseur et clavier, sort son premier album en 1994 avec le titre Tersera. La chanson phare du même titre, Tersera, est devenue un hit à cette époque. Bon, chers auditeurs, voici Humania va chanter une chanson intitulée Tersera. Bonne écoute.
Murder style in the yes flow.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Bonjour, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, et joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontrera demain, même heure et même fréquence. À bientôt.